Radio Prague, les informations.
Les syndicats des transports envisagent une série de grèves. Un tribunal international devrait être constitué pour juger les crimes du communisme. Prague va accueillir le secrétaire général de l'OTAN, M. Rasmussen. Les syndicats des transports envisagent de lancer une série de grèves en cas de non-satisfaction de leurs revendications concernant le projet d'amendement à la nouvelle loi sur la TVA entrée en vigueur le 1er janvier et ayant des retombées négatives sur certains avantages sociaux dont les employés bénéficiaient. C'est ce qu'a déclaré dans un débat télévisé diffusé ce dimanche le chef de l'Union syndicale des transports, Lomos Pomaibik. La conférence internationale de trois jours consacrée aux crimes des régimes communistes qui s'est déroulée à Prague en présence d'historiens, de prisonniers politiques et de personnalités politiques de plusieurs pays a adopté à sa fin une déclaration. Celle-ci propose la constitution d'un tribunal international qui jugera les crimes communistes contre l'humanité à l'instar des crimes nazis ou les crimes commis dans l'ex-Yougoslavie. La semaine prochaine, le secrétaire général de l'OTAN, Anders Fogh Rasmussen, se rendra à Prague. Vendredi prochain, il aura des pourparlers avec le premier ministre Jan Fischer et le chef de la diplomatie Jan Kohout. La proposition gouvernementale d'augmenter les effectifs du contingent militaire tchèque en Afghanistan figurera très probablement au menu de ces entrevues. La traditionnelle fête foraine Matejska a ouvert ses portes samedi dans l'enceinte du centre des foires à Prague. En dépit du beau temps qui a régné pendant toute la journée de samedi, l'intérêt du public a été relativement faible, tout comme ce dimanche. Une adaptation des particules élémentaires, célèbre roman de Michel Houellebecq, a été montée sur une des scènes du Théâtre national de Benon. C'est pour la première fois qu'une œuvre de la plume de cet écrivain français soit présentée en République tchèque sur une scène de théâtre. Michel Houellebecq, considéré par la directrice artistique du théâtre, Dora Vitsenikova, comme l'auteur le plus scandaleux de la littérature mondiale contemporaine, n'a pas pu assister à la première représentation de cette création théâtrale qui a eu lieu vendredi soir. La hausse des températures qui marque la météo depuis plusieurs jours et qui fait fondre la neige en moyenne et basse altitude augmente toujours le risque d'inondation. Les lits des nombreuses rivières se remplissent et l'Institut météorologique recommande une vigilance particulière dans plusieurs régions. Le premier degré d'alerte inondation a été déclaré déjà dans 18 localités. Et le météo encore, ce dimanche, le ciel est presque couvert sur l'ensemble du pays. Quelques éclaircies pourront encore apparaître. Les températures maximales se situent entre 4 et 9 degrés. C'était le journal présenté par Alena Gebertova. Ah!
Culture sans frontières, Anna Kubista.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans cette émission, entretien avec Jean-Paul Barbe, germaniste, professeur à Nantes. Il est l'un des organisateurs de la quinzaine tchèque à Nantes à partir du 2 mars, dans le cadre du Centre culturel européen de cette ville de Loire-Atlantique. Pendant 15 jours, Nantes prend des couleurs tchèques. Conférences, expositions, rencontres littéraires et gastronomiques, c'est un programme très complet qui a été préparé et qui essaye de sortir des sentiers battus, des clichés rebattus sur les pays tchèques. Jean-Paul Barbe nous rappelle tout d'abord ce qu'est le Centre culturel européen.
C'est une association de 1901 qui regroupe, qui fédère quatre centres culturels permanents, un qui concerne le domaine germanique, un autre pour la Grande-Bretagne, un pour l'Espagne et pour l'Italie. Il y a donc quatre centres permanents, quatre cultures qui sont représentées de manière permanente. Et alors, chaque année, en plus, on invite pour une quinzaine une des cultures d'Europe qui ne sont pas présentes de manière permanente à Nantes. Et c'est la sixième édition cette année. On a commencé il y a donc 5 ans par la Lettonie, ensuite la Belgique, la Roumanie, les pays scandinaves, la Suisse, et maintenant c'est le tour de la République tchèque. Il s'agit à chaque fois de sensibiliser les Nantais à la diversité de l'Europe, parce que notre hypothèse de départ, c'est que on ne peut pas s'intéresser au tout, c'est-à-dire à l'Europe, comme tout, si on n'a pas quelques connaissances des parties et de leur diversité.
Alors, juste une petite précision, c'est vrai que Nantes, c'est très loin de Prague, c'est très loin de la oui. République tchèque, c'est pas les mêmes contrées, mais est-ce qu'il y a peut-être quand même des liens historiques entre Nantes et la République tchèque? Je sais que par exemple, pas très loin de chez vous, à Rennes, Rennes est par
oui,
exemple jumelée avec Brno,
oui.
Voilà.
Oui. Oui, hélas, non. Dans la région, il n'y a pratiquement pas de jumelage, il y en a un petit près de du Mans, sauf qu'il y a, au niveau des établissements scolaires, un des témoignages qu'on aborde dans la quinzaine, c'est les échanges qui ont lieu depuis un certain nombre d'années entre un lycée de Nantes et puis le lycée de Diéchin.
Concrètement, est-ce qu'on pourrait juste dire, pendant cette quinzaine, quel type d'événements vous organisez? C'est
oui.
Conférences, expositions, cinéma?
Oui, c'est ça. Alors, le cinéma est présent, mais pas véritablement au centre, parce que le cinéma classique tchèque est assez souvent représenté hein, dans les cinémas d'art et d'essai, à Nantes aussi. Nous avons donc des concerts, nous avons une exposition d'art contemporain, nous avons également une exposition photo de Holomíček.
Bohdan Holomíček, oui.
Oui, et puis un certain nombre de conférences, des ateliers aussi, il y a des ateliers de cuisine, mais il y a un atelier d'initiation linguistique. On accorde toujours beaucoup de prix à ce qu'il y ait une toute petite initiation. Par exemple, vous avez peut-être remarqué en voyant notre site que notre plaquette comporte des titres en bilingue toujours pour nos différentes manifestations. Donc il y a un atelier d'initiation linguistique.
Gratuit, il faut préciser.
Oui, parce qu'il n'y a pas d'enseignement à l'Université de Nantes. Hein. Ce n'est qu'à Rennes qu'il y a un enseignement du tchèque.
Alors c'est aussi original au niveau au niveau simplement de le côté loisir, j'allais dire. Certes, vous proposez par exemple de la bière tchèque, mais vous proposez également une tchajovna qui est peut-être moins connue. Et c'est vrai qu'il y a énormément de salons de thé tchajovna en République tchèque.
Oui, c'est ça. Ça semble être un genre d'établissement et de lieu social assez à la mode, qu'on connaît peut-être moins que les brasseries. Mais c'est le même lieu qui se transforme à partir de 18h en brasserie. Et à la brasserie, il y aura des poèmes qui seront dits, en particulier par des étudiants tchèques, en tchèque et en français, lors de ces soirées-là, qui se font de manière assez informelle.
Alors, vous parlez évidemment des conférences. Vous-même, vous êtes germaniste et,
oui.
et donc vous animerez une conférence.
Oui.
Cette conférence est intitulée, alors, si je me trompe pas, voilà, d'Archimboldo Aslin et des Celtes à Havel. Alors,
oui.
Ce que je voulais préciser quand même pour les auditeurs, c'est que vous avez choisi des bornes très intéressantes pour ce thème, parce que vous prenez un peu le contre-pied de ce qu'on associe traditionnellement
oui.
à la République tchèque, qui est souvent réduite, en gros, à Prague, à Kafka, donc à la place de Kafka, vous choisissez un autre personnage important, Archimboldo,
oui.
et au lieu de Prague, vous choisissez Zlin, et
oui.
puis vous rappelez surtout les attaches celtes des Tchèques, et c'est quelque chose qui n'est pas toujours très connu.
Si vous voulez, dans ce que j'appelle l'alphabet culturel tchèque, j'ai des points de repère comme ça, ou des icônes, si vous voulez, qui ne sont pas les mêmes que celles qui sont présentées habituellement, ou bien l'angle d'approche n'est pas le même. Par exemple, Kafka, j'en parlerai un peu de Kafka, mais c'est vrai qu'il y a une consommation de t-shirt Kafka Forever, quoi. C'est pas ça notre propos. Mais je parlerai de Kafka à travers la petite ville, le château de Liblice, où il y a eu la conférence en 1963 sur Kafka, faut-il brûler Kafka, etc., qui a mené ensuite au printemps de Prague. Je réintroduis des gens, mais d'une autre manière. Archimboldo, oui, c'est parce que c'est à la fois un des moments de cosmopolitisme de Prague, mais le cosmopolitisme d'en haut, en quelque sorte, hein, un peu lié au palais surtout, et qui a été idéalisé, magnifié d'une manière très très belle par un livre culte comme celui de l'italien Angelo Ripellino, Praga Magica.
a précisé d'ailleurs qu'il vient de ressortir en Tchèque cette année.
Bon.
Voilà,
ah,
une
bon,
réédition,
une
très belle
nouvelle,
réédition.
Oui.
Voilà.
Et Zlin, bah parce que pour moi, c'est le symbole de l'essor industriel novateur dans la période de la République tchécoslovaque, entre les deux guerres, quoi. Bon, qui a été arrêté un peu par la mort accidentelle de Bata, mais c'est en même temps un exemple presque unique d'une ville entière bâtie selon les termes ou les idées de Le Corbusier, ou, bon, c'est pas lui qui est venu, mais enfin, quelqu'un de cette école-là.
Et puis les Celtes, quand même.
Oui.
Justement, on oublie souvent que finalement les Celtes sont allés
oui.
Partout de l'Irlande
oui,
à la
ça.
Turquie en passant par la Bohême.
Oui. Alors, j'en parle, mais là, très brièvement, pour rappeler que y a eu des peuplements divers depuis très longtemps, même le néolithique. Là, je commence mes diapositives par une Vénus d'il y a je sais pas combien de dizaines de milliers d'années. Enfin, c'est voilà, c'est une vieille terre de peuplement, en fait, de peuples qui se sont succédés là. Et sinon, dans les icônes, si vous voulez, pour vous donner un ordre d'idée de ce que je pense proposer, bon, les gens sont allés à Strahov, par exemple, au monastère de Strahov. Il y a deux salles, il y a une salle de théologie et une salle de philosophie. Elle illustre très bien le passage de la contre-réforme au début des Lumières, c'est-à-dire la salle baroque de théologie, et un plafond immense avec des décorations incroyables, etc. La salle de philosophie à côté, qui est faite un siècle plus tard, elle a un plafond assez bas à hauteur d'homme, quoi, avec des livres qui peuvent être pris à la main comme ça. Sans, vous voyez, c'est bon. Il y a quelquefois des lieux qu'on peut regarder avec un autre regard, quoi. C'est un peu ça. Et puis des choses qui, du point de vue européen, je sais pas, un lieu comme la prison autrichienne de Spielberg, là, en Moravie.
À Brno.
D'une manière générale, d'ailleurs, effectivement, vous le disiez tout à l'heure, on réduit les choses à Prague, et notre souci, ça a été de rappeler aux Nantais que la République tchèque, ça n'est pas que Prague, et qu'en plus, ça n'est pas que la Bohème, et qu'il y a la Moravie.
Tout à fait. Parce que les Tchèques ont tendance même à oublier parfois, quand ils sont
oui.
de Bohème.
Oui, et pourtant, il y a une grande, grande richesse. Dans le passé et dans le présent aussi, d'ailleurs. Quoi. Dans le domaine des symboles, je fais un sort au monument de Staline, dans les disques Sadi, l'Etna, qui est quand même dans l'histoire de la statuaire, quoi. Il y a beaucoup de monuments, de statues gigantesques à Prague, genre Hus, etc. Quelque chose d'inégalé et qui manifeste bien les problèmes du communisme avec sa destruction, comment dirais-je, clandestine presque, en 1962, etc. Et puis le roman qui a été écrit en français par Alza Triolet, qui s'appelle Le Monument, où sans jamais qu'on dise que c'est la République tchèque ou la Tchécoslovaquie, le sculpteur donne l'énorme somme qu'il reçoit, puisqu'il est promu malgré lui prix Staline pour la sculpture à un institut pour aveugles. C'est-à-dire que c'est une gigantesque plaisanterie aussi, ça, la Kundera.
On peut parler un petit peu aussi de l'aspect un peu plus ludique de cette quinzaine, hein, puisqu'il y a des conférences évidemment,
oui.
C'est-à-dire côté universitaire ou plus sérieux entre guillemets, mais il y a quand même un aspect plus ludique, et notamment puisque vous allez faire découvrir aux Nantais un personnage
oui.
un peu particulier, Yara Zimmermann.
Yara Zimmermann. On a découvert en fait ce personnage avec délice, et c'est quand même un cas assez unique dans le monde que les citoyens d'un pays, dans l'enquête de la télévision par exemple, décrètent que c'est Yara Zimmermann le plus grand tchèque de tous les temps, quoi.
Tout à fait, à côté de Charles IV et d'autres personnages éminents de l'histoire tchèque.
Oui, donc on a imaginé qu'il était venu, on a essayé de poursuivre un peu la fiction, quoi, qu'il était venu à Nantes en 1910. Bon, alors on a donné quelques pistes, des départs, si vous voulez, de réflexion aux Nantais pour dire, bah, écoutez, contribuez, cherchez dans vos archives familiales si il n'aurait pas été question de Yara Zimmermann en 1910. On leur a dit, par exemple, c'est une vraie fausse piste, qu'il aurait peut-être rencontré Vladimir Ilyitch Ulyanov, Lénine à Pornic. Il se trouvait en vacances en juillet 1910 à Pornic. Et mais ça c'est vrai en réalité. Et donc on a fait un concours avec il y aura des prix. Alors certains, il y aura un buste de Yarad Zimmermann comme premier prix. Également un séjour de 8 jours dans le petit village où il a été pour la première fois instituteur et qui est un village imaginaire. Voilà, donc...
Vous avez déjà eu des réponses ?
Oui. Et on peut encore en envoyer jusqu'à... On espère en avoir d'autres encore jusqu'à mercredi de la semaine prochaine. Et donc l'ambassadeur, Pavel Fischer, va dévoiler une plaque rue... dans Cosmopolis, c'est-à-dire dans le lieu où nous faisons nos manifestations, une plaque de rue Yarad Zimmermann. Et la brasserie s'appelle Uyari Zimmermana.
D'accord, donc Yarad Zimmermann est vraiment mis en valeur dans le festival, ce qui est quand même relativement rare aussi à côté...
Oui, ben on est content de faire sortir un peu... Il est allé à Paris, on le sait, il avait rencontré Pierre et Marie Curie, par exemple, et puis on sait quand Gustave Eiffel lui avait volé l'idée de la Tour Eiffel. Mais on n'en savait pas beaucoup plus.
C'était le germaniste Jean-Paul Barbe qui nous présentait cette semaine la quinzaine tchèque à Nantes qui commence le 2 mars. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez évidemment retrouver cette rubrique sur notre site internet au www.radio.cz. Merci de votre fidélité. À bientôt, à la semaine prochaine.
Vous avez dit la République tchèque, voyagez donc, Jarka Gisubelova.
Bonjour et bienvenue à l'écoute. Depuis quelques jours, la liste du patrimoine culturel national est enrichie de 38 nouveaux monuments. L'occasion de vous présenter le premier d'entre eux, la maison cubiste appelée à la Madone Noire, située au coin de la rue Tseletna, quelques pas de la place de la vieille ville de Prague. Un édifice incontournable à la façade ocre et aux formes très originales dans lequel tout, depuis l'entrée jusqu'au toit, se décline sur le mode cubiste. Le premier étage, avec une terrasse, est occupé par le Grand Café Orient, qui prétend être le seul café de style cubiste au monde. Le nom du site vient de la statuette baroque de la Madone Noire, dont une copie orne l'angle de la maison, entièrement dédiée au cubisme, mais incorporée avec sensibilité dans le quartier gothique et baroque de la vieille ville de Prague. Au début de 1911, un grossiste pragois František Josef Herbst commande à l'architecte Josef Gotchar, âgé alors de 31 ans, le projet d'un grand magasin au coin de la rue Tseletna et du marché aux fruits. Des péripéties accompagnent l'élaboration du projet, qui ne plaît pas aux représentants de la mairie de Prague, raconte Olga Uhrova, conservatrice de la Galerie Nationale, qui a installé dans ses locaux une exposition permanente du cubisme.
Gotchar s'est vu obligé de modifier son projet. La nouvelle commande impliquait de diminuer les fenêtres et d'alléger le toit. Il adapte le projet à ce changement, en mettant en revanche en relief les éléments cubistes du bâtiment.
Déjà dans le premier projet de 1911, la maison possédait une façade en ogive, un toit mansardé et segmenté, ainsi que des corniches pointues au-dessus des fenêtres. Le projet romanier, soumis en janvier 1912, y ajoute une entrée cubiste et ce style continue, avec la rambarde d'escalier, les chapiteaux cubistes et des colonnes situées entre les fenêtres et les baies vitrées. un phénomène national dont Josef Gočar est l'un de ses premiers protagonistes, voit alors le jour l'architecture cubiste tchèque. Le grand café Orient au premier étage, entièrement aménagé dans ce style, est rare et unique en son genre. Pourtant, au moment de son ouverture en 1912, le café n'avait que 8 ans de vie devant soi. Dans les années 1920, le cubisme tombe en disgrâce. Le café est fermé pour être remplacé par des bureaux. Après la guerre, la maison allait être occupée par une société de foire et d'exposition. Un tournant se produit après 1989, avec un nouveau locataire qui décide de redonner au site son aspect d'origine, y compris le fameux café Orient. Renata Hendrichova est la patronne du café à nouveau ouvert.
C'était des locaux vides et la seule chose qui avait été conservée, c'était 4 photographies d'époque, noir et blanc. À partir de ces photos et en collaboration avec des experts de la Galerie nationale, nous avons essayé de créer une réplique fidèle du café tel qu'il était en 1912.
Le mobilier de style cubiste, chaises, tables, sofas revêtus de tissus rayés de couleurs blanches et vertes, lustres, accessoires, vaisselle, tout a été scrupuleusement respecté. Sur les objets en bois, on peut apercevoir un motif typique de la période tardive du cubisme tchèque, le motif de coraux reliés, produisant l'impression d'un collier de corail. Cette même décoration se répète sur les services à thé de Pavel Janák, qui se vendent au rez-de-chaussée de la maison à la Madone Noire, dans la galerie Kubista, avec d'autres objets comme verre, bijoux, textiles, lustres, affiches, livres et meubles. À quelques exceptions près, comme la sucrerie cubiste, tout dans ce café aujourd'hui identique à ce que l'on peut voir sur les photos d'époque. Le locataire a même eu la chance de trouver un piano cubiste qui complète le décor de la salle. C'est en octobre 1994 l'inauguration de la maison cubiste à la Madone Noire après une restauration complète qui va abriter un nouveau centre des arts plastiques au cœur de Prague. Les 4e et 5e étages sont réservés à des expositions permanentes sur tous les aspects du cubisme tchèque, couvrant une période entre 1911-1919. Des œuvres provenant des collections de la Galerie nationale nous sont présentées par Olga Uhrova.
On peut y trouver les meilleurs tableaux des peintres cubistes tchèques Bohumil Kubišta et Emil Fila, des plastiques d'Otto Gundfreund, ainsi que des toiles de Čapek, Špála, Procházka et autres. Y sont également exposés divers documents et projets d'architecture ou encore des meubles.
Aucune discipline des arts n'est omise dans la maison cubiste à la Madone Noire. Les expositions saisissent dans toute son ampleur le phénomène du cubisme tchèque qui a créé, notamment à Prague, tout un style de vie. Nulle part ailleurs qu'en Bohême, l'architecture cubiste n'a été poussée aussi loin. On en trouve des spécimens précieux dans le quartier de Vyšehrad. Et en dehors de Prague, c'est tout un quartier d'habitation de la ville de Hradec Králové qui a été façonné par Josef Gočar sur les principes du cubisme. L'architecture cubiste est en effet un phénomène spécifique tchèque. C'est d'ailleurs tout ce style qui a ses particularismes en Bohême. Tandis qu'à Paris, le cubisme est un art élitiste créé dans des ateliers, il en était autrement en Bohême, où il répondait au désir de créer un véritable style de vie. Il a infiltré la population en s'imposant dans l'architecture et dans les objets d'usage quotidien. L'inscription de la maison à la Madone Noire sur la liste du patrimoine culturel national n'a pas qu'une valeur symbolique. Le statut de monument classé, c'est le privilège de bénéficier d'une protection majeure de la part de l'État, d'avoir un accès plus facile au programme de subvention pour être, somme toute, plus attrayant encore pour ses visiteurs. C'est tout dans cette demi-heure en français sur Radio Prague. Nous vous remercions de votre fidélité. Comme vous le savez, l'actualité tchèque continue sur notre site internet www.radio.cz. Au revoir, naschledanou.
En su receptor, Radio Praga. Emisiones de la radiodifusión checa para el exterior. Radio Praga pone su primera emisión para España a las 9 horas UTC, tiempo universal coordinado, por las frecuencias de 11.600 kHz. A las 15 horas UTC, transmitimos para España por los 11.600 kHz. A las 19 horas UTC, los oyentes españoles nos pueden sintonizar por los 6.200 kHz. Radio Praga transmite a las 20 horas UTC para España por los 5.930 y a las 21.30 UTC para España y Sudamérica por los 5.930 kHz. A las 0 horas UTC salimos al aire por los 5.930 y los 7.420 kHz, esta última frecuencia a través de la repetidora en la isla Ascensión. A las 01.30 horas UTC, los radioescuchas de Centroamérica nos pueden sintonizar por los 7.345 kHz.